Jacques Dumassy, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes diplomate et ancien consul de France à Chengdu. La France a-t-elle eu, suite à la reconnaissance voici 50 ans de la Chine par De Gaulle, un statut diplomatique privilégié, ou bien les Chinois ont-ils oublié le général ?
Oh, les Chinois n'ont pas oublié le général, au contraire, même aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils se réfèrent au général De Gaulle. Donc c'est 1964 a été une année particulièrement importante pour les relations franco-chinoises vues par les Chinois. Du côté français, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais enfin ce cinquantenaire vient opportunément rappeler à quel point ce tournant diplomatique avait été important pour les deux pays.
À quand remonte la première rencontre entre la France et la Chine ?
Ah ben c'est un peu le début de mon ouvrage, puisqu'en fait je date très précisément le début des relations officielles entre les deux pays, les deux États, les deux nations, du 20 décembre 1248. Alors pourquoi le 20 décembre 1248 ? Parce qu'à cette époque-là, Saint-Louis, qui partait pour la 7e croisade, qui était une croisade purement française et non pas internationale, avait dans un premier temps fait escale pendant plusieurs mois à Nicosie, à l'île de Chypre, pour rassembler donc ses troupes et pour y passer l'hiver en attendant donc de déferler sur l'Égypte au printemps. Et les Mongols, qui avaient été effectivement mis au courant de cette perspective d'arrivée des troupes françaises, des croisés au Moyen-Orient, en étaient très intéressés parce qu'ils avaient au fond le même objectif d'invasion du Moyen-Orient. Et donc, les Mongols avaient envoyé des émissaires à Chypre pour engager des pourparlers, des négociations avec les Francs. Et donc, cette première rencontre a lieu le 20 décembre 1248.
Alors, pourquoi Saint-Louis était-il si attentif aux ambassadeurs mongols ?
Alors, en fait, il faut avoir en tête que, quelques années plus tôt, en 1241, les Mongols avaient déferlé jusque aux portes de Vienne, et donc avaient menacé l'Occident chrétien dans sa totalité. Et l'événement avait creusé beaucoup d'incertitudes sur l'avenir dans les États chrétiens d'Occident, parce que personne ne connaissait les Mongols. C'était vraiment une peuplade venue du fin fond de l'Asie qui n'était absolument pas connue jusqu'à cette époque-là. Et donc la frayeur qui avait effectivement qui s'était emparé de l'Europe entière avait obligé à la fois la papauté et aussi les rois d'Occident de réfléchir sur cette nouvelle donne au niveau de la politique internationale, l'arrivée donc d'une puissance inconnue, d'au-delà du monde connu. Et donc les Mongols, à partir de cette année 1241, rentrent dans les préoccupations des États d'Occident. En même temps, l'Occident est intéressé par l'Orient, pas encore par l'Extrême-Orient, mais par l'Orient, c'est-à-dire en fait par la Terre Sainte. Et donc, les premiers contacts entre l'Occident mené par la France, première puissance de l'époque, et les Mongols vont se faire autour du problème du Moyen-Orient.
Donc on peut dire qu'entre la France et la Chine, il y a bien un avant et un après 1248.
Oui, alors avant 1948, je dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a eu quelques tentatives du temps des Romains entre les Han de l'époque et puis le monde romain. Il y a eu aussi quelques tentatives qui ont précédé l'année 1248 parce que suite à l'invasion de 1241, la papauté a décidé d'envoyer des émissaires auprès des Mongols pour simplement se demander pourquoi ils étaient aussi agresseurs et essayer de mieux les comprendre. Mais c'était rien, si vous voulez. La relation ne commence qu'en 1248.
Alors, malgré les immenses conquêtes d'un Gengis Khan, les Mongols ne dominent pas en 1248 toute la Chine.
Non, pas encore, si vous voulez. La Chine jusqu'au fleuve Jaune et sous domination des Mongols, qui ont commencé en fait leur conquête au début du XIIIe siècle, grâce à Gengis Khan, qui réunit les tribus mongoles à partir de 1206. Et donc entre 1206 et 1280 environ, il y a des conquêtes progressives de la Chine. Pékin est déjà pris par les Mongols en 1215. Qu'on se replace donc en 1248, c'est toute la Chine du Nord qui est déjà sous la coupe Mando, mais il faudra attendre Kubilai et 1287 pour que effectivement l'ensemble de la Chine soit soumise aux Mongols.
Alors ces Mongols, c'est la dynastie Yuan, et ces Yuan sont bienveillants envers les chrétiens et les occidentaux.
Oui, alors ça c'est le paradoxe, parce que d'un côté, ces Mongols, ce sont des envahisseurs redoutables et exterminateurs pour tous ceux qui leur résistent. Mais d'un autre côté, quand effectivement la domination mongole semble acceptée, les Mongols deviennent extrêmement tolérants, et notamment sur le plan religieux. Ils sont fascinés par les religions monothéistes, eux qui n'ont pas atteint ce stade, je dirais, au niveau religieux, sont assez interloqués par les discussions qui peuvent avoir lieu entre les bouddhistes, les chrétiens, les mahométans, et donc ils sont tolérants envers tout le monde. Et c'est quand même une caractéristique qui est peu connue de la part des Mongols, c'est que pendant toute la dynastie des Yuan, toutes les religions vont pouvoir fleurir en Chine.
Ce qui effectivement n'était pas le cas partout à l'époque. Alors, si les Français envoient des ambassades vers la Chine, les Chinois en font autant en sens inverse. Qui est le premier Pékinois à Paris?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu aussi. Mais dans ces échanges qui commencent donc à partir de 1248 et qui vont toujours avoir deux centres d'intérêt, d'une part le Moyen-Orient, c'est-à-dire comment les puissances occidentales et la puissance mongole commencent à s'entendre au fond pour se partager le Moyen-Orient, c'est un peu ça l'idée de base, hein, qui est la première source d'intérêt commun entre les deux puissances. Et il y a un deuxième centre d'intérêt qui est au fond ces religions dont nous parlions. Et il faut savoir que dans toute l'Asie centrale et donc jusqu'au fin fond de la Chine, une branche du christianisme, le nestorianisme, s'est développée de façon assez extraordinaire tout au long du premier millénaire. Et donc, quand nos premiers catholiques arrivent, ces premiers missionnaires catholiques arrivent au XIIIe siècle à la cour des Yuan, la cour de Mongole, ils découvrent que les nestoriens sont déjà présents depuis plusieurs siècles. Et donc, cette branche du christianisme est très, très vivante. Au milieu donc des Mongols, et a même réussi à pénétrer jusqu'au plus haut de l'État mongol, puisque des épouses des empereurs mongols seront de religion nestorienne. Et donc l'idée finit par germer que parmi ces ambassadeurs mongols qui vont venir dans la deuxième partie du XIIIe siècle, il conviendrait peut-être d'envoyer un nestorien. Et donc le premier ambassadeur mongol qui parvient jusqu'à Paris, il y a eu des échanges qui ont eu lieu au Moyen-Orient précédemment, mais le premier qui vient jusqu'à Paris, Robin Soma, est un nestorien qui est originaire donc de la région de Pékin. Et c'est donc le premier Pékinois qui débarque à Paris et qui ira même jusqu'à Bordeaux d'ailleurs pour rencontrer à Bordeaux, non pas les Bordelais, mais le roi d'Angleterre, puisque à l'époque Bordeaux est sous la coupe du roi d'Angleterre, et toujours avec cette idée de tisser des alliances avec les deux grandes puissances que sont la France et l'Angleterre à l'époque, pour essayer d'avoir des actions en commun au Moyen-Orient.
Et donc ce premier ambassadeur est donc chrétien. La légende du prêtre Jean a beaucoup fait au Moyen-Âge pour développer l'intérêt des Occidentaux pour la Chine.
Oui, alors ça, c'est aussi très important, cette légende du prêtre Jean, parce que ça va alimenter un espoir pendant des siècles, qui est au fond de trouver un pont entre l'Occident et l'Orient. Et ce pont, on va le chercher, bien souvent à l'époque, du côté religieux. En fait, pourquoi on continue à penser qu'au fin fond de l'Asie, il y a des communautés chrétiennes? ça ne s'appuie pas uniquement sur quelque chose de farfelu, si vous voulez. Il y a depuis le début du christianisme des mouvements qui ont eu lieu entre la Terre Sainte et le fin fond de l'Asie. On a parlé à l'instant des Nestoriens, mais il y a eu aussi cette croyance en la présence de communautés chrétiennes au-delà du monde connu, donc dans le monde des barbares, tel que nous le présentions à l'époque, une présence chrétienne, et donc ça a pris cette forme d'un prêtre Jean qui est en même temps un roi d'un royaume, qui est donc perdu au milieu du monde de la barbarie, mais qui maintient le flambeau chrétien au fin fond de l'Asie. Et cette légende, en fait, s'appuie sur des réalités, parce que grâce au mouvement des Nestoriens, il y a eu effectivement, aux alentours de l'an 1000, il y a eu des petits royaumes d'Asie centrale qui étaient dirigés par donc des Mongols, des bons Mongols, mais qui étaient de religion nestorienne. Et donc l'idée que au fin fond de l'Asie il y ait une sorte de prêtre Jean ou de roi qui dirigeait un royaume qui était au fond le témoignage de l'universalité de la chrétienté est une croyance et en même temps une réalité forte et qui va durer jusqu'au XVIe, XVIIe siècle.
Oui, si tard que ça. Mais pourtant, l'Asie au Moyen-Âge est présentée comme le pays de Gog et Magog, donc celui de l'Antéchrist. Ça va pas très bien avec cette histoire de prêtre Jean.
Si vous voulez, le prêtre Jean, c'est l'exception. Hein. Ce monde est peuplé de barbares, qui sont vraiment l'antéchrist. Et donc, la légende de Gog et Magog, bon, on s'appuie sur un passage de la Bible, et donc le monde inconnu est ce monde des barbares. Alors, pourquoi au fond assimiler ce monde qui est au-delà des frontières connues à la barbarie? Mais c'est aussi parce qu'au cours des siècles, l'Europe a été envahie de façon répétée par des gens venus d'au-delà des frontières, qui étaient des envahisseurs, hein, les Huns, les Scythes, même les Normands, même donc les Mongols. Et donc ces invasions répétées de l'Europe, de pays, de gens venus d'au-delà des frontières, sont assimilées au passage de la Bible où on parle de barbares qui sont les Gog et Magog et qui déferlent de façon périodique vers l'Occident. Donc, il y a à la fois, si vous voulez, une vision de l'extrême-Orient comme étant une vision dramatique, qui est la terre des barbares, mais en même temps, on a cette vision qu'au sein du monde des barbares, il y a un royaume chrétien, un prêtre Jean, qui pourra effectivement faire cette liaison un jour et faire en sorte que le monde entier, le monde connu et le monde inconnu, soit chrétien.
Alors, le premier envoyé du pape en Chine est en 1245, Jean de Plancarpin. Et j'ai été étonné de découvrir qu'il était compagnon de saint François d'Assise.
Oui, ben c'est à cette époque-là, si vous voulez, que les dominicains et les franciscains apparaissent. Hein. Donc, c'est une période extraordinairement riche où vous avez des individualités hors du commun qui apparaissent et qui, justement, comprennent que le monde est plus vaste que sur ce que l'on pensait. Et qu'il y a donc un travail de missionnaire à faire auprès de ces peuples d'au-delà des frontières. Et donc, naturellement, les franciscains vont jouer, avec les dominicains, vont jouer tout au long du XIIIe siècle un rôle de pionnier dans ses relations avec le monde mongol.
Il ne faut pas oublier qu'en 1492, Christophe Colomb était parti à la recherche de la Chine, inspiré par le récit de Marco Polo.
Oui, alors, si vous voulez, après les Yuan, il y a effectivement une coupure, hein, parce que la nouvelle dynastie, les Ming, pour de multiples raisons, essayent de se recentrer sur la Chine. Ils ont été envahis par une dynastie étrangère, quand même, pendant plus d'un siècle. Et donc, il y a un recentrage sur la Chine, et il n'y a plus cette même appétence à aller découvrir l'Occident. Par contre, en Occident, les relations sont beaucoup moins faciles, peut-être, mais il y a toujours ce mythe, ce rêve d'un Extrême-Orient glorieux qui a été le mythe alimenté par le récit de Marco Polo, qui paraît à la fin du XIIIe siècle et qui, pendant tout le XIVe et le XVe siècle, va être un livre mythique qui va être lu par toute l'intelligentsia de l'époque et qui va alimenter donc ensuite, pendant tout le XVe siècle, ce courant des découvreurs, des grands explorateurs qui vont partir à nouveau à la recherche donc de ce pays extraordinaire qui était décrit par Marco Polo, et en empruntant cette fois-ci la voie maritime, puisqu'on pense effectivement qu'on devrait pouvoir atteindre la Chine par la mer. Et donc c'est en partant en 1492 le grand rêve de Christophe Colomb.
Voilà, et finalement il a découvert l'Amérique. Alors, ce sont les Portugais qui établirent les premiers vrais contacts commerciaux avec la Chine.
Oui, alors tout simplement parce que le Portugal, avec l'Espagne, est la grande puissance maritime de l'époque. Et donc, pendant les débuts du XVIe siècle, il n'y a que les Portugais et les Espagnols qui se risquent à aller aussi loin. Et dans le partage du monde qui a été fait lors du traité de Tordesillas à la fin du XVe siècle, le partage a fait que ce sont les Portugais qui s'étaient octroyé toute la partie chinoise du monde. Et donc les premiers voyages, effectivement, ce sont ceux des Portugais. Et ça se passe pas très bien d'ailleurs, parce que les Portugais sont assez brutaux et ne se rendent pas vraiment compte qu'ils ont en face d'eux un véritable pays qui est à l'époque vraiment une très grande puissance, et donc se comportent un peu comme s'ils avaient en face d'eux des barbares incultes. Et donc pendant une cinquantaine d'années, ça se passe pas très bien. Mais au bout de 50 ans, les Portugais se font accepter par les Chinois, notamment parce qu'ils participent à une lutte contre les pirates, surtout japonais d'ailleurs, qui écument la mer de Chine. Et donc il y a des intérêts communs entre les Portugais et les Chinois pour bouter les pirates japonais hors de mer de Chine. Et donc il y a une acceptation par les Chinois des Portugais, notamment la cession de Macao aux Portugais en 1550 à peu près. Et c'est le début de l'implantation portugaise à Macao.
Et ils étaient arrivés à Canton en 1514. Alors du coup, la France au XVIe siècle ne s'intéresse plus à la Chine.
Oui, alors la France, et c'est le grand problème qu'on rencontrera pendant les siècles, la France a une politique beaucoup plus continentale que maritime, déjà à cette époque-là. Elle est empêtrée dans les guerres de religion qui font qu'effectivement, personne n'a trop l'idée d'aller voir l'autre bout du monde. Et donc, pendant tout le XVIe siècle, la France est cruellement absente. Oui.
Alors, Nicolas Trigault, qui est né à Douai, le premier jésuite français à marcher sur les traces de Matteo Ricci. Et ça se passe au début du XVIIe siècle.
Oui, alors, Matteo Ricci est donc le premier jésuite à s'installer en Chine et à s'installer même à Pékin à partir de 1600. Et donc c'est le début de l'épopée jésuite en Chine. Parmi les premiers qui se trouvent donc à aller en Chine à l'époque, il y a ce Nicolas Trigault, originaire du nord de la France, et qui arrive lui en Chine juste au moment où Matteo Ricci décède à Pékin en 1610, même année que Henri IV, Ravaillac et Henri IV. Et Nicolas Trigault se voit confié par le successeur de Matteo Ricci, qui est un jésuite italien, le soin d'aller en Europe pour présenter tout le travail qui a été fait par Matteo Ricci et trouver des subsides, des soutiens pour développer la mission jésuite à Pékin. Donc c'est lui qui se rend en Europe à partir de 1615 et qui, pendant 2-3 ans, va écumer les cours européennes, les différentes monarchies européennes, pour trouver les subsides nécessaires, rassembler les volontaires aussi pour qu'il y ait une nouvelle fournée de jésuites qui puissent partir vers la Chine, et rassembler aussi les livres et les cadeaux, les livres qui viendront alimenter l'extraordinaire bibliothèque jésuite qui durera pendant des siècles à Pékin, et les cadeaux qui devront être aussi offerts à l'empereur pour témoigner du respect qu'on lui doit, bien sûr, mais aussi de l'état d'avancement de la science européenne de l'époque.
Et c'est lui qui romanisera l'écriture chinoise. Vous venez de parler de la bibliothèque jésuite à Pékin. Elle est devenue, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette bibliothèque?
La bibliothèque jésuite à Pékin, le fameux Pétang, a duré jusqu'en 1949. Ensuite, bon, il y a eu une partie qui a pu être sortie de Chine, mais une grande partie aussi a été détruite. On a retrouvé, il y a encore quelques années, en Chine, des restes de cette bibliothèque qui était vendue sur le marché. Moi, j'ai rencontré un Chinois qui avait rassemblé une centaine d'ouvrages savants. Naturellement, il ne disait pas que ça venait de la bibliothèque des Jésuites, mais ça ne pouvait venir que de là, et qui était donc resté en Chine et qui, par des circuits très, très invraisemblables, avait abouti donc chez des marchands.
Alors, c'est à partir de la fin du XVIIe siècle et de Louis XIV que la Chine fait vraiment son entrée en France.
Oui, alors bon, naturellement, la puissance de la France à l'époque a aussi, pour la première fois, son volet maritime. C'est-à-dire, bon, tout le monde le sait, c'est un peu avec Colbert que démarre la constitution d'une force maritime française. Il y a l'idée aussi de constituer une compagnie française de l'Orient comme les Anglais et les Néerlandais l'avaient fait au début du siècle. Et donc, à partir des années 1680, la relation entre la France et la Chine, au niveau donc des États, se développe. Et la première rencontre entre Louis XIV et des Chinois a lieu en 1685.
Effectivement. La création en 1664 par Colbert de la Compagnie des Indes orientales est effectivement très importante. Et alors, du coup, l'empereur Kangxi est très sensible aux ambassades françaises. Il aime bien les Français.
On a l'intelligence, c'est un peu Louis XIV et ses ministres, plutôt les ministres d'ailleurs que Louis XIV, on a l'intelligence d'envoyer des jésuites qui sont des savants et en nombre. Et donc la mission jésuite de Pékin, très rapidement, se francise. Donc le nombre des jésuites français devient très très important. Il y en a d'autres, il y a les Allemands, il y a les Italiens, mais les Français deviennent très, très importants. Et ce sont eux qui tissent les relations les plus étroites avec les plus hauts dirigeants et l'empereur lui-même, grâce à l'apport scientifique et même à l'apport culturel ou même artistique qu'ils apportent et qui passionne l'empereur chinois de l'époque. Donc il y a là une politique française dynamique à partir de 1685 qui se développe et qui va durer jusqu'à la Révolution.
Alors c'est de La Rochelle que partira le premier bateau officiel pour la Chine en 1698. Comment expliquer le retard de la France justement dans ses relations avec la Chine comparé aux Hollandais et aux Anglais?
Comme je disais tout à l'heure, la France est une puissance continentale, c'est-à-dire que tous les efforts portent sur le continent et on n'a pas, comme les Anglais ou les Bataves de l'époque, de rêves maritimes. Malgré une géographie qui aurait dû nous pousser à développer notre puissance maritime. Deuxièmement, bon, les premiers efforts qu'on mène sont orientés vers l'Amérique et le Canada notamment. Donc les Antilles et le Canada sont nos préoccupations maritimes de l'époque, beaucoup plus que l'Extrême-Orient. Donc on a un peu de retard par rapport aux Anglais, aux Néerlandais, voire aux Espagnols, aux Portugais. Il ne faut pas oublier que les Espagnols aussi aux Philippines ont développé des activités importantes. Donc on a un peu de retard, mais le 18e va permettre de rattraper ce retard.
Tout à fait. D'ailleurs, on arrive au 18e siècle et au siècle des Lumières. Et là, on s'aperçoit que les philosophes s'intéressent beaucoup à la Chine, et notamment Leibniz et Voltaire.
Oui, alors la Chine va devenir le centre des préoccupations de nos philosophes. Pourquoi ? Nos philosophes, dans leur grande majorité, en fait, cherchent les Lumières, cherchent à développer, au fond, la liberté, le partage des pouvoirs ou la séparation des pouvoirs, cherchent à développer de nouveaux systèmes de pouvoir en France. Et l'exemple chinois leur semble déterminant. Alors naturellement, ils brodent un peu parce que la Chine telle qu'elle a été décrite par les jésuites, puisqu'il ne faut pas oublier que les jésuites font un travail colossal de rapport par leurs lettres, les fameuses lettres des jésuites qui inondent l'Europe entière. Et donc, il y a une connaissance de la Chine qui est possible grâce aux travaux des jésuites. Mais surtout, il y a l'utilisation par nos philosophes de l'exemple chinois pour essayer de démontrer que le système européen, un peu trop monarchie de droit divin, doit évoluer vers une forme de despotisme éclairé, qui est quand même, à l'époque, la marque des esprits ouverts et progressistes. Et donc, l'empereur chinois est l'exemple même du despote éclairé qui devrait inspirer, au fond, nos propres monarques. Donc, c'est en ça que les philosophes des Lumières utilisent beaucoup la Chine.
Quelle place tient la Chine dans l'encyclopédie ?
Alors, je dirais que la place de la Chine dans l'encyclopédie est importante, mais c'est surtout parce qu'elle s'est créée sa propre encyclopédie. Je veux dire qu'il y a une encyclopédie propre à la Chine qui a été écrite en 1735, qui est au fond la compilation de tous les travaux qui ont été faits par les jésuites depuis des décennies, et qui est cette compilation qui est faite par le père Duhald, et qui aboutit donc à une véritable encyclopédie sur la Chine, qui précède l'encyclopédie de Diderot, qui apparaîtra une vingtaine d'années plus tard. Donc l'esprit encyclopédique doit beaucoup aussi à la Chine, parce que la première encyclopédie perçue comme telle est en fait une encyclopédie qui porte spécifiquement sur la Chine.
Alors, impossible au XVIIIe siècle de ne pas évoquer les splendeurs du palais d'été, le Versailles pékinois.
Oui, alors c'est plus que ça, si vous voulez. C'est que la Chine, donc, comme on vient de le dire, apparaît comme étant l'État moderne dans sa façon de gérer du rapport entre gouvernant et gouverné. Et donc la Chine a un peu, au XVIIIe siècle, l'image que les États-Unis vont avoir en Occident pendant toute une bonne partie du XXe siècle. C'est-à-dire c'est le pays en avance, c'est le pays qui semble être le plus évolué, et en même temps c'est celui qui, sur le plan des productions artistiques, et notamment des fameuses porcelaines et autres lacs et autres meubles chinois, apparaît comme celui qui a atteint un niveau de développement tout à fait extraordinaire. Et donc le goût pour la Chine n'est pas seulement un goût intellectuel, ça devient un goût artistique. Alors, le développement du commerce entre la Chine et l'Europe, d'une façon générale, permet aux bateaux européens qui vont vers la Chine de ramener des cargaisons entières de différents biens chinois. Et donc il y a peu à peu un goût pour la Chine qui envahit complètement l'Europe. Et on n'a pas idée de l'intensité qu'aura ce goût pour la Chine, qui va naturellement amener toutes les bonnes familles à avoir ces porcelaines chinoises, ces paravents chinois et autres fanfreluches chinoises, mais ça va influencer aussi les productions théâtrales, la musique. Donc le Paris bruisse de la Chine pendant tout le XVIIIe siècle, mais ce n'est pas uniquement Paris, c'est aussi Londres, c'est aussi Leipzig, c'est donc l'Europe entière qui vit à l'heure chinoise.
Et c'est aussi Chanteloup, le désert de Retz. Et voilà, et pour les jardins, si les Français, les Européens se sont entichés de la Chine et des chinoiseries, j'ai découvert dans votre livre que Chen Fuzhong avait eu une vie quand même née à Nankin, extrêmement aventureuse, et qu'il était venu chez nous.
Oui, alors, Chen Fuzhong est un des premiers Chinois à se rendre en Europe, et c'est tout à fait notable, parce que autant il y a eu des centaines et des milliers d'Européens qui sont allés en Chine pendant ces deux ou trois siècles qui précèdent 1789 chez nous, autant le nombre des Chinois qui viennent en Europe et en France à cette époque-là se compte sur les doigts des deux mains. Il y a à peine une dizaine de Chinois qui, pendant trois siècles, viendront jusqu'au début du XIXe siècle, viendront en Europe. Donc, pourquoi si peu de Chinois? D'une part, parce qu'il était interdit aux Chinois de partir à l'étranger, donc quitter les frontières de la Chine, demander des autorisations tout à fait spéciales et qui n'étaient quasiment jamais accordées. Et deuxièmement, parce qu'au fond, la Chine l'Empire du Milieu ne s'est pas intéressé à ceux qui n'étaient pas chinois. Ça, c'est un phénomène aussi dont je parle un peu dans mon livre, c'est que ces rapports entre l'Occident et la Chine ont été pendant très longtemps à sens unique, c'est-à-dire c'était l'Occident qui s'intéressait à la Chine et la Chine qui s'occupait très peu au fond de l'Occident. Alors donc les premiers Chinois qui sont venus en France sont, ou en Occident de façon générale sont apparus comme étant effectivement des bêtes rares, des gens extraordinaires. Et donc, ils étaient reçus immédiatement par le roi Louis XIV, par le roi d'Angleterre, qui fait peindre immédiatement le portrait du Chinois en question et qu'il met dans sa chambre. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre avait le portrait d'un Chinois qui n'était pas très célèbre, mais qui simplement était le premier à venir. Et donc, c'était un événement absolument exceptionnel et considérable.
Bon, alors à l'époque, il faut quand même 18 mois en moyenne pour aller en Chine. C'est vrai que ça peut refroidir en tout cas. Au 19e siècle, enfin avant d'arriver au 19e siècle, il y a la Révolution française. Et à partir de là, la Chine disparaît de nos radars pendant un bon 25 ans.
Oui, alors bon, ça c'est un effet des troubles qui s'emparent de la France pendant effectivement une vingtaine d'années. Et donc l'esprit n'est plus du tout à s'occuper de ce qui se passe au bout du monde. On laisse faire complètement les Anglais, les Néerlandais et les Russes d'ailleurs aussi, qui pendant ce temps-là multiplient les ambassades auprès des Chinois pour essayer de tisser des relations, développer le commerce, essayer de faire en sorte que la Chine s'ouvre. Et nous, Français, nous sommes absents parce que préoccupés par nos affaires intérieures et après 1815, diminués par les conditions de la défaite et la diminution de notre rôle international. Donc il faudra attendre 1840, au fond, pour que à nouveau nous ayons un œil porté vers la Chine.
Peut-être un peu plus tôt, il y a l'armateur Thomas Daubray qui a relancé le commerce avec la Chine, dont vous parlez.
Oui, oui. Alors bon, ça c'est un petit épisode dont je parle dans mon livre, mais c'est pour montrer par la rareté de ce genre d'opération que effectivement l'essentiel c'est que nous n'avons plus de relations, sauf un armateur nantais qui persiste à vouloir effectivement maintenir des opérations commerciales avec la Chine et qui envoie donc deux navires entre 1815 et 1830 vers la Chine, mais avec des résultats quand même commerciaux très très médiocres qui montrent que nous n'avons plus effectivement ce goût de la Chine que nous avions eu pendant tout le XVIIIe siècle.
Et d'ailleurs, arrivent ensuite les guerres de l'opium, les traités inégaux, la dégradation totale de nos rapports avec la Chine. Et pourtant, dans le même temps, la sinologie fait son apparition.
Oui, alors le 19e siècle est un siècle effectivement difficile pour la relation entre la France ou l'Europe d'une façon générale et la Chine parce que le déséquilibre est croissant. C'est-à-dire on a en face de nous un empire qui lui-même est en proie à des difficultés de plus en plus grandes avec là aussi une dynastie étrangère, encore une fois la dynastie Mandchou qui n'arrive plus au fond à contenir l'évolution de la Chine et les difficultés qui apparaissent en Chine. Donc vraiment, la Chine est en pleine décrépitude tout au long du XIXe siècle. Et de l'autre côté, au contraire, l'Europe devient colonialiste, impérialiste, et donc domine de plus en plus ce rapport entre les Chinois et les Occidentaux. D'un autre côté, l'Europe qui connaît une croissance extraordinaire à l'époque, qui a naturellement ses aspects militaires, colonialistes et autres, a aussi ses aspects économiques, ses aspects de développement, mais aussi ses aspects intellectuels, c'est-à-dire que l'Europe en pleine croissance a aussi des intellectuels en pleine croissance. Et donc le monde intellectuel français s'intéresse très vite, un peu en reprenant l'héritage jésuite d'ailleurs du XVIIIe siècle, s'intéresse très vite à cette puissance lointaine en déconfiture complète qui est la Chine, qui est certes malade, mais qui est aussi une civilisation qu'on perçoit comme étant extraordinairement riche. Et donc nos intellectuels recommencent à s'intéresser à la Chine. Et la sinologie moderne, la sinologie au sens occidental du terme, est avant tout française. Les premiers grands sinologues qui apparaissent à la fin du XIXe siècle sont essentiellement français. Il y aura bien sûr des Américains, des Anglais, mais l'école française de sinologie sera brillantissime de 1880 à 1950.
Alors on va citer quelques noms, Lacanale, Rémusat, Bazin, Julien, et puis dans les intellectuels, Vissière, Auguste François, Philippe Berthelot, Saint-Jean-Perse, que je ne m'attendais pas à trouver là, Paul Claudel bien sûr, et Victor Ségalène, l'incontournable. Alors à partir de 1860, nous arpentons en toute impunité le Yangtze avec nos fameuses canonnières. C'est un épisode très célèbre.
Oui, alors bon, le Yangtze est une voie de pénétration très attirante pour les Occidentaux qui, au départ, se voient accorder la possibilité de s'installer dans quelques ports. Ça, c'est les premiers traités qui suivent les premières guerres de l'opium. Mais c'est à partir des secondes guerres de l'opium, donc 1860, que l'Occident, c'est-à-dire essentiellement les Anglais et les Français, obtiennent par la force, donc, la possibilité de pénétrer à l'intérieur de la Chine. Et naturellement, le Yangtze est la voie royale à l'époque pour ce faire. Et donc, très rapidement, surtout les Anglais d'ailleurs, plus que les Français, sillonnent le Yangtze avec leur fameuse armada pour contrôler la région, mais aussi pour commercer petit à petit avec toutes ces grandes villes qui s'échelonnent le long du Yangtze. Et donc, en une trentaine d'années, petit à petit, la pénétration se fera jusqu'au fond du Sichuan, puisque, au fond, les créations de nos consulats au Sichuan à la fin du 19e, au tout début du 20e, sont le stade ultime de cette pénétration qui a démarré à Shanghai.
Qui sont les premiers diplomates chinois en France et que viennent-ils y faire ?
Alors, dans cette période, bien sûr, l'ouverture de la Chine a pour petite contrepartie l'ouverture de la Chine au monde. C'est-à-dire que dans nos rapports, on force les Chinois à accepter les ambassades étrangères à Pékin. Et donc, à partir de 1860, effectivement, nous avons, puissance occidentale, les ambassades à Pékin. Et donc, on demande aux Chinois, et on invite fortement les Chinois à créer aussi eux-mêmes des ambassades à l'étranger. Donc pendant une dizaine d'années, les Chinois vont se former d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas du tout formés, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour ouvrir des ambassades à l'étranger. Donc il y a un institut spécial qui se crée à Pékin avec l'aide des Occidentaux en 1860, et les premières missions diplomatiques chinoises à l'étranger sont à la fin des années 1860 et les premières ambassades dans les années 70. Et donc la première ambassade est ouverte à Londres, et tout de suite après à Paris.
Donc Paris, 1871. Que vient faire en Chine la mission lyonnaise d'exploration commerciale ?
Oui, alors ça, c'est le volet naturellement commercial de la pénétration française en Chine, qui a son côté très sympathique d'ailleurs, parce que les Lyonnais, qui sont toujours très intéressés par le commerce de la soie, les Lyonnais qui cherchent des zones d'approvisionnement pour les soieries lyonnaises décident de monter une grande opération de découverte du sud-ouest chinois. Et donc pendant 2 ans, une troupe de Lyonnais, guidée par des scientifiques et des commerçants de haute tenue, vont arpenter le sud-ouest de la Chine, dont essentiellement le Yunnan, le Sichuan, le Guizhou, pour analyser la possibilité d'implanter, de développer des opérations commerciales, industrielles dans cette région méridionale de la Chine. Et Lyon, effectivement, joue un rôle non négligeable à l'époque. Donc cette mission lyonnaise est restée célèbre. Elle a donné lieu à des rapports extrêmement scientifiques et fouillés sur l'état de la Chine du sud-ouest à cette époque-là, avec une conclusion d'ailleurs qui est assez mitigée, parce que l'état de sous-développement de la Chine du sud-ouest à l'époque laisse présager relativement peu de possibilités réelles.
En tout cas, la démarche était plutôt contemporaine. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a eu à Pékin, de 1920 à 1950, une université franco-chinoise.
Oui, alors ça, c'est un des volets les plus intéressants de cette relation un peu chaotique de la fin du 19e, début 20e, c'est que il y a sur le plan intellectuel des liens qui se tissent entre la France et la Chine qui sont extrêmement intéressants, extrêmement riches. D'une part, les Chinois considèrent à juste titre à l'époque que la France est une grande puissance, que la France a connu un développement depuis 1789, depuis la Révolution, particulièrement intéressant sur le plan politique. C'est une république. Et donc, les progressistes chinois sont très intéressés par la culture française, les idées françaises, les philosophes français. Et donc, il y a là vraiment un attrait très fort du côté des jeunes Chinois, et qui vont venir en masse, d'ailleurs, à partir des années 1920, se former en France. Et d'un autre côté, du côté français, on a l'idée aussi que il y a une carte chinoise à jouer en Extrême-Orient, que de la même façon qu'au 19e, on a beaucoup joué de la carte religieuse en envoyant nos missionnaires, on essaye de jouer la carte intellectuelle à partir donc de 1910-1914. Et il y a cette école de sinologie française qui joue effectivement son rôle, mais aussi beaucoup d'intellectuels tout français qui s'intéressent à la culture chinoise, qui viennent en Chine, qui découvrent la Chine. Et donc les relations à l'époque sont tellement fortes que l'idée germe de créer une université française à Pékin sur la même... dans la même veine d'ailleurs que la fameuse université Aurore qui avait été créée à Shanghai, qui était plus internationale, mais c'était une université jésuite, même si les jésuites n'étaient pas les seuls à enseigner dans cette université. Et donc dans la même veine, les Français et les Chinois créent cette université à Pékin qui va durer donc de 1920 jusqu'à 1949 et qui va alimenter beaucoup de jeunes intellectuels chinois qui viendront ensuite en France, d'ailleurs, parce que souvent, après une première partie de leurs études à Pékin, ils étaient envoyés en France, soit à Paris, soit à Lyon, pour parfaire leurs études. Et certains, effectivement, joueront un rôle non négligeable ensuite au plus haut niveau de la société chinoise.
Eh bien là, je sens que vous pensez à Deng Xiaoping et à Chou Enlai. Alors, par contre, ce que l'on oublie ou qu'on ne sait pas, c'est que Chiang Kai-shek a reconnu la France libre de Gaulle en 1942. Ça, c'est peut-être un souvenir de ces bonnes relations.
Oui, alors ça n'a pas été si immédiat que ça, parce que Chiang Kai-shek était naturellement très prudent et il a montré à d'autres occasions qu'il savait effectivement attendre avant de prendre une décision. Chiang Kai-shek attend que la situation s'éclaircisse du côté de la résistance française, qu'il attend aussi que les Américains, grosso modo, tissent eux-mêmes des liens avec la résistance française avant de sauter le pas. Et donc c'est seulement en 1943 que Chiang Kai-shek va reconnaître officiellement la résistance française, mais c'est aussi parce que Vichy se comporte de plus en plus mal, notamment en Indochine et vis-à-vis des Japonais, et donc la relation, le maintien d'une relation entre Chiang Kai-shek et Vichy devient impossible à partir de l'été 43. Donc du coup, la place devient libre pour la résistance française.
Pourquoi de Gaulle, en 1964, en pleine guerre froide, veut-il lier des relations diplomatiques avec la Chine ?
Alors ça fait partie de la grande politique gaullienne, si vous voulez. Une fois que le problème de l'Algérie aura été réglé, de Gaulle se sent un peu les mains libres pour développer une véritable diplomatie, une politique à l'international. Et dans la stratégie que de Gaulle a à l'époque, il y a une préoccupation générale, c'est de créer un monde multipolaire. Ce sera sa grande politique jusqu'à la fin. Et à l'intérieur de ce monde multipolaire, d'essayer de trouver des solutions aux conflits qui continuent à agiter l'Asie, puisqu'on est encore dans la guerre du Vietnam à l'époque, qui va se déchaîner dans les années qui suivent. Et donc, dans cette perspective, le général de Gaulle considère qu'on ne peut pas, dans l'équilibre du monde de façon générale, mais aussi plus particulièrement en Asie, trouver de solutions sans participation de la Chine. Alors déjà, Le premier conflit indo-chinois l'avait montré, puisqu'en 54, Mendès-France n'avait pu trouver de solution en Indochine que par les accords de Genève auxquels les Chinois avaient contribué puissamment. C'était encore le cas au début des années 60 quand il avait fallu régler en partie le problème du Laos. Et donc là aussi, une nouvelle conférence de Genève avait montré que la puissance chinoise était telle qu'on ne pouvait pas décider des choses dans cette région sans la Chine. Et donc de Gaulle pense que la solution au Vietnam ne pourra pas se faire sans participation chinoise. Et dès lors, de Gaulle considère qu'il faut intégrer la Chine dans les réflexions et la diplomatie internationale, et donc il faut reconnaître la Chine, l'État chinois ayant montré depuis qu'il s'est installé en 1949 sa capacité à perdurer et sous la forme qui est la sienne. Et de Gaulle montre bien que c'est pas une adhésion au communisme chinois en reconnaissant la Chine, mais que l'État chinois doit être reconnu en tant que tel parce qu'on ne peut pas s'en passer dans la résolution des conflits mondiaux.
En tout cas, à l'époque, c'était un sacré risque politique. Et il n'ira jamais en Chine, de Gaulle. Et c'est Pompidou qui fut le premier chef d'État français à être reçu par Mao.
Oui, alors c'est un des grands regrets à la fois des Chinois et je pense des Français, c'est que cette rencontre mythique entre Mao et de Gaulle n'a pas pu avoir lieu. Deux monstres du XXe siècle, au fond, se seront salués de loin, mais n'auront pas eu l'occasion de se serrer la main. C'est donc Pompidou qui aura la charge d'être le premier président français à être reçu par Mao. Un Mao qui est déjà vieillissant, ça se passe en 1873, et avec un Pompidou qui est déjà malade. Si vous voulez. Donc cette rencontre est assez poignante parce que les deux personnages vont disparaître 3 ans plus tard. Enfin, 1 an plus tard pour le président Pompidou et 3 ans plus tard pour Mao.
Oui, c'était la fin. Comment Mitterrand voyait-il la Chine, lui qui était allé en Chine dès 1961 ?
Alors oui, Mitterrand, en fait, a fait son voyage à l'époque en Chine en 61, comme le faisaient certains intellectuels qui voulaient découvrir, au fond, ils avaient un peu de temps libre à l'époque hein, aussi. Mitterrand n'était pas au poste qu'il a occupé par la suite, donc ils avaient un peu de temps libre. Et donc, il voyageait et allait se renseigner un peu sur ce qu'était la Chine. Donc, Mitterrand fait son premier voyage en Chine en 1961. Il a l'idée ensuite d'y retourner en 1981, au tout début de 1981, au moment où il est candidat à la présidence, pour se donner une stature internationale. Il a cette idée assez géniale d'aller passer 8 jours à Pékin, naturellement avec une flopée de journalistes et de télévision à l'époque, qui le présente tous les soirs au journal télévisé comme étant le candidat français qui s'est rendu à Pékin. Alors, la Chine commence à être un petit peu célèbre à l'époque. Et donc ça lui servira beaucoup dans sa campagne pour se hisser au niveau international, ce qui n'était pas vraiment son point fort, c'était plutôt un point faible. Hein. Et donc, quelques mois plus tard, il sera élu président de la République.
Comme quoi, c'est intéressant d'aller en Chine. 2004, c'est une année faste pour les relations franco-chinoises.
Oui, alors je voudrais terminer quand même sur la précédente question, parce que vous m'interrogez un peu sur ce qu'a été la politique de Mitterrand vis-à-vis de la Chine. Alors, c'était assez étonnant, parce qu'il y a deux périodes. Il y a une première partie où les relations se développent de façon assez riche, notamment sur le plan économique, avec les premiers accords dans le domaine nucléaire. Donc c'est le début de cette politique nucléaire que la France va avoir vis-à-vis de la Chine et qui va être très bénéfique. Et puis tout se casse à partir de 89, à partir de Tiananmen d'une part, mais aussi avec un infléchissement assez net de la politique française vis-à-vis de l'Asie à l'époque. Et donc le choix que va faire Mitterrand en 91, le choix que va faire Mitterrand, donc de tisser des relations riches avec Taïwan, notamment sur le plan militaire. Alors naturellement, il y a le volet défense de l'industrie militaire française qui a du mal à trouver des marchés, et donc il y a des opportunités de marché exceptionnelles avec Taïwan à l'époque. Et donc, à la fois, c'est l'affaire des frégates, mais c'est aussi l'affaire des mirages, des marchés mirobolants qui sont signés avec Taïwan. Naturellement, ça occasionne une rupture presque totale des relations avec la Chine. Pendant 2 ans, on rase les murs à Pékin. Enfin, les diplomates français rasent les murs à Pékin. Et ça laissera des traces quand même, parce que cette politique gaullienne auquel les Chinois étaient habitués depuis 1964, d'un seul coup, était rompue. Naturellement, Chirac reviendra à la tradition. Si vous voyez. Donc la relation entre la France et la Chine à l'époque de Chirac sera une véritable lune de miel, comme on le dit. Mais il y a eu ces années Mitterrand qui ont été effectivement des années bonnes dans un premier temps et mauvaises pour les Chinois dans un deuxième temps.
Et cette lune de miel, finalement, pour en revenir à tout ça, c'est 2004 qui couronne un peu cette politique de Chirac.
Voilà, donc c'est l'année effectivement de la lune de miel franco-chinoise. D'une part, sur le plan politique, la relation n'a jamais été aussi bonne entre les deux pays. C'est l'époque aussi où la France, notamment vis-à-vis au Moyen-Orient, vis-à-vis de l'Irak, etc., renoue avec la tradition gaullienne. Et donc, tout ça plaît beaucoup aux Chinois. Et puis, sur le plan culturel, ce sont les années croisées qui montrent à quel point les relations culturelles entre les deux pays ont atteint un niveau de développement tout à fait satisfaisant.
Alors, après le vent un peu frais qui a soufflé entre la France et la Chine en 2008 au moment des Jeux Olympiques, que dire de l'avenir aujourd'hui des relations France-Chine au XXIe siècle ?
J'ai peur de dire qu'au 19e, c'était un déséquilibre parce que l'Occident était beaucoup trop puissant par rapport à la Chine. J'ai peur que dans les décennies qui viennent, ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on ait une Chine puissante avec une Europe qui soit malheureusement en état d'affaiblissement, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Donc il y a effectivement un risque de déséquilibre. D'un autre côté, il y a un intérêt pour la Chine qui est vraiment très très grand parmi la jeunesse française et je dirais parmi la jeunesse européenne. Et donc la prise de conscience que le monde de demain ne peut pas se faire sans la Chine, à mon avis, est plus ancrée chez les jeunes chez nous que chez les anciens aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc, je suis relativement optimiste pour l'avenir parce que je pense que les jeunes générations européennes ont peut-être une vision de ce monde multipolaire dont on parlait tout à l'heure plus forte que nos gouvernants.
Jacques Dumazy, merci.